Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
h 30 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour.
Ultime interview avant ce second tour des élections législatives et vous aviez un slogan, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Je peux donc dire ce matin que vous êtes le candidat NUPES au poste de Premier ministre. Un duel qui s'est installé véritablement entre Emmanuel Macron et vous, un duel que vous avez installé d'ailleurs. Et ces derniers jours, vous dites chacun l'un de l'autre que le chaos... c'est l'autre. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair, mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette visite hier à Kiev. Emmanuel Macron qui y était, il est rentré cette nuit. Plusieurs points d'abord sur le fond. L'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, plus précisément au processus d'adhésion immédiate. Pour lui c'est oui, et pour vous ?
Alors, ça ne mange pas de pain. On peut inscrire, vous savez, la procédure dont il est question, c'est un pays s'inscrit comme candidat à l'adhésion. Donc c'est vraiment le démarrage. Le président Macron lui-même avait dit qu'il y en avait pour au moins une décennie. Alors, dans le moment, c'est une démarche un peu symbolique pour dire aux Russes, vous voyez, on lâchera pas l'Ukraine, l'Ukraine est des nôtres, et ainsi de suite, ça on ne peut qu'approuver. Maintenant, doucement, avec les enthousiasmes de comme ça, soudain, hein, parce qu'il faut se rendre compte que, pour ma part, je ne voterai aucune nouvelle adhésion à l'Union européenne sans harmonisation sociale.
Rendez-vous compte. Mais y compris l'Ukraine, y compris la situation dans laquelle ils sont, ça ne change rien.
Non, rien du tout, parce que faire entrer un pays... non, mais attendez, qu'on se comprenne bien, parce que la question que vous m'avez posée, c'est est-ce que je suis d'accord pour qu'il soit inscrit comme candidat à l'adhésion ?
C'est exactement la question que je vous ai posée.
Je vous réponds oui. Je dis seulement, il faut
mais faire... Mais en même temps, vous dites ça ne mange pas de pain. Donc oui, si ça leur fait plaisir et si ça peut les rassurer.
Il y en a pour des années, c'est un signal qu'on donne à la Russie.
Oui, à l'adhésion, mais non... Oui à la candidature, non à l'adhésion.
Soit candidat. Après, leur adhésion ne dépend pas d'eux. Dans mon esprit, leur adhésion dépend de la réponse que l'Europe fera à l'harmonisation sociale. Je demande qu'on réfléchisse bien au point suivant. Le président a même évoqué la Moldavie. D'accord. Bien. Aujourd'hui, le salaire minimum ukrainien, c'est 138 euros. Le SMIC de Moldavie, c'est 50 euros. Si vous voulez organiser une énorme dépression de dumping social, il n'y a qu'à faire ça, faire adhérer les gens sans qu'ils se soient mis au niveau. Le président Macron avait lui-même dit que si on faisait une adhésion immédiate, ce serait faire baisser les standards sociaux d'adhésion. Donc, je tiens à dire cette précision, il ne me coûterait rien de ne pas le faire. Hein.
Candidature, j'ai bien compris. Candidature, oui. Adhésion en l'état, non. Deuxième
non,
point...
adhésion si l'Union européenne doit changer ses méthodes et notamment l'Ukraine doit adhérer à l'Union européenne, il faut d'abord qu'on remonte ses standards sociaux.
Et une fois que voilà les standards, ce sera une adhésion
sinon,
à ses standards.
C'est du travail détaché. Vous ferez venir des Ukrainiens en France qui travailleront pour 138 euros. Alors, il faut quand même y aller doucement, non ?
Vous aviez dit d'ailleurs à un moment que les travailleurs détachés venaient manger le pain des travailleurs français. Vous aviez un peu regretté quand même cette phrase.
Non, pas du tout. Ça s'est passé il y a environ 10 ans au Parlement européen et j'ai dit que j'étais contre le travail détaché et j'ai oublié de dire, je vous dis entre guillemets, vous qui dites que les travailleurs étrangers viennent manger le pain des Français, voilà une situation concrète. Alors, pour que tout le monde m'entende bien, notamment dans le bâtiment et les autres métiers de cette nature, nous sommes opposés au travail détaché parce qu'il permet de payer des gens dans des conditions qui font une délocalisation à domicile.
On a ouvert plein de tiroirs là, Jean-Luc Mélenchon, on va essayer justement d'aller au bout. Il y avait un deuxième point dans cette visite, c'était l'envoi d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé notamment qu'il livrerait 6 canons César supplémentaires. Est-ce que vous maintenez votre position de refuser d'envoyer des armes à l'Ukraine ?
Alors, comme ça n'était pas ma position, je n'ai pas de mal à ne pas la maintenir.
Il doit y avoir un peu de flou quand même, parce que pour qu'il y ait autant
non,
de...
Non, il y a une propagande qui dit que c'est flou. C'est comme sur plein de sujets, on fabrique une caricature et ensuite je suis censé répondre.
Ce matin, il n'y aura pas de caricature, vous pouvez répondre précisément.
Donc vous n'êtes pas obligé de poser des questions qui ne le sont pas ou qui sont fausses. Nous sommes d'accord tous les deux ?
Vous étiez pour l'envoi des 6 canons, César ?
J'ai dit depuis le début, et y compris quand les premiers canons César sont arrivés, que je ne m'exprimerai pas sur l'armement aussi longtemps que j'aurai dans la situation d'être candidat Premier ministre d'un président qui, lui, ne sera pas de mon bord. Nous nous mettrons d'accord, lui et moi, si je suis Premier ministre, pour parler d'une seule voix. Il vient de décider d'y envoyer des canons. Puisque les canons y sont, j'approuve. Je ne prendrai pas le risque de laisser entendre aux Russes que nous sommes divisés entre Français sur ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Je pense que je ne peux pas faire plus clair, mais je demande que l'on cesse de m'interroger sur des positions qui ne sont pas les miennes. Depuis le début, je dis attention à ce que nous faisons pour ne pas être considérés comme des belligérants. Ce qui était exactement la même position que la plupart des responsables politiques de ce pays. Je n'ai donc jamais fermé la porte au fait que l'on donne des armes aux Ukrainiens.
Mais vous insistez aussi sur le fait, et si je l'entends bien, que dans l'idée d'une cohabitation, puisque c'est évidemment ce qui arrivera si vous arrivez à avoir la majorité et donc à entrer à Matignon, ces aspects-là, c'est-à-dire les aspects de diplomatie, de politique étrangère, vous considérez que ce sera du ressort du président et vous respecterez cette séparation des tâches ?
Non, car la Constitution ne prévoit pas de séparation des tâches. La Constitution donne le pouvoir au Premier ministre sur les questions de défense et sur les questions de politique étrangère. La Constitution donne le chef des armées et le président de la République, et c'est lui qui négocie et signe les traités. Autrement dit, la Constitution donne aux deux des raisons parallèles de s'exprimer sur ces sujets. Ce que j'ai dit, c'est qu'en toute hypothèse, nous parlerions d'une seule voix. Par conséquent, je pense que sur chaque sujet, il faudra trouver, par la discussion, soit un compromis, soit il peut aussi arriver, madame, que nous soyons d'accord tous les deux. Parce que quand il s'agit de l'intérêt de la France, il arrive que souvent les clivages par rapport aux questions étrangères sont moins violents qu'ils n'y paraissent en politique intérieure. Mais il ne faut pas cacher qu'il y a une différence entre lui et moi. Lui est absolument partisan de l'OTAN, pas moi. Eh bien, figurez-vous que si je suis le Premier ministre, ce ne sera pas le premier sujet que je mettrai sur la table. Parce que je n'ai pas intérêt moi-même.
Là-dessus, vous mettrez un peu votre mouchoir en vous disant on attend.
Ben, je tiendrai compte de la situation. Les Français ont élu un président de la République. Bon, il est élu légitime. Et s'ils élisent par une majorité un Premier ministre, il est légitime aussi. Donc c'est notre rôle, à lui et à moi, de faire preuve de bon sens et de raison, et d'éviter que, devant l'étranger, nous apparissions comme une cohorte confuse.
Le timing, le choix de ce déplacement à Kiev, au cœur de la campagne législative, vous avez l'air de considérer qu'il y a quand même un argument politique derrière, un sous-entendu politique, un hasard du calendrier auquel vous ne faites pas trop confiance.
Non, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'un hasard de calendrier. Je pense que certains ont dit il s'enfuit. Non, c'est pas vrai non plus. Je pense juste qu'ils considéraient que l'élection législative était une formalité administrative, et d'ailleurs, j'en ai de nombreux échos. Ils pensaient que c'était réglé une fois qu'il aurait gagné, qu'il aurait eu son duel habituel avec Mme Le Pen, qui, comme d'habitude, l'aurait perdu. Ce serait une formalité. Et donc, il y a plusieurs mois qu'ils ont prévu ce voyage. Alors, comme un voyage comme celui-là ne s'annule pas, même s'il avait voulu rester, il ne pouvait plus. Donc, il est parti. Et puis, en partant, il a fait une déclaration sur un tarmac, puis sur un deuxième, et nous avons eu un échange à distance. Moi, je lui ai dit, quand il était sur le tarmac en France, c'est bien normal, il est le président, je suis dans l'opposition, c'est normal que je m'exprime et que je le pique. Quand c'était à l'étranger, j'ai trouvé ça un peu inélégant, mais passons, c'est déjà
dit. Il est revenu, et là, est-ce que vous le piquez à nouveau, ou est-ce que vous considérez malgré tout que, globalement, cet épisode,
il est terminé
et que vous le respectez?
Non, mon souci est que les Russes et M. Poutine n'aillent pas croire qu'entre Français, il y a une faille. Non, tous les Français, tous les dirigeants politiques français, absolument tous, sans exception, sont contre l'invasion de l'Ukraine et exigent du gouvernement de M. Poutine qu'il retire ses troupes et qu'il cesse ce que on a le droit maintenant de qualifier de crime de guerre, qui est le bombardement de populations civiles, qui ne présente aucun danger militaire sur le terrain et qui sont absolument sans défense. Donc je tiens à ce qu'on entende qu'il n'y a qu'une voix de la France à cette heure et elle est toute du même côté.
C'est bien entendu, Jean-Luc Mélenchon. Vos accusations de calcul biaisé des voix, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y a répondu hier. Il parle d'un complotisme comme un autre.
Oui, c'est M. Darmanin qui est une sorte de personnage très agité. Pourquoi complotiste? Alors dans ce pays, si on critique un ministre, si on discute, c'est du complotisme. L'autre dit que je veux empêcher les gens de couper les bois chez eux. Le troisième m'accuse d'union
soviétique. Ça, c'était Christophe Castaner.
Oui, Castaner, qui dit... Et le président aussi qui a repris ça, je ne sais pas pourquoi.
Oui, qui dit que si vous êtes élu, on ne pourra plus couper le bois chez soi.
C'est grotesque. Toute une série de journalistes, d'ailleurs, l'ont dit que ça dépassait les bornes, qu'on ne pouvait plus discuter si on en était là. Là, par exemple, Monsieur Darmanin, ce matin, dit que je suis...
dans le journal Le Parisien.
À force de fréquenter Chavez, je ne sais plus, il ne sait pas que Chavez est mort depuis 9 ans. Donc, il faut arrêter tout ça.
Il parle de vous comme d'un funeste agitateur.
Oui, bah, pourquoi pas, il a le droit. Je pourrais, moi aussi, j'ai des adjectifs fleuris. J'en ai plein la bouche. Mais regardons bien ce que nous voulions dire. Monsieur Darmanin a d'abord essayé de nous empêcher de nous appeler NUPS et d'être comptés comme NUPS. Ensuite, lorsqu'il y a eu les décomptes dimanche soir, comme il lui fallait absolument afficher au minimum l'égalité entre La République En Marche et nous, ils ont commencé à retirer des gens des totaux. Oui ou non, Monsieur Jean-Hugues Ratenon, député France Insoumise, Madame Annick Lebon, députée du GDR de La Réunion, ont-ils siégé pendant 5 ans sur les bancs de
NUPS ? Ils ont été en effet décomptés, ce qui fait que votre total de voix du coup passe légèrement derrière le total des voix macronistes. Mais cela dit, je voudrais rebondir quand même sur un mot que vous
dites. Qu'il y ait de raison. Que s'il y avait avec moi, on pourrait dire, mais vous avez un journal qui n'est pas spécialement des amis de la NUPES, qui est le journal Le Monde, qui fait le même compte
que vous. Qui a fait le même compte que vous et qui n'a pas repris les comptes. Du ministère de l'Intérieur.
Alors j'ai donc raison de mettre en cause la manière dont le décompte a été fait. Mais ce n'est pas une question centrale. Je sais pourquoi il le fait. Depuis le début, il veut laisser entendre qu'il n'est pas possible que nous gagnions l'élection législative. Or, il est possible que dimanche soir, nous gagnions l'élection législative.
Jean-Luc Mélenchon, vous avez dit qu'ils avaient fait des fausses accusations contre vous, qui étaient complètement délirantes, y compris le fait de ne plus pouvoir couper son bois. Mais quand même, il y a une chose, c'est que dès le premier soir, le soir du premier tour, vous avez accusé le gouvernement d'un plan caché, un projet de hausse de la TVA. Au moment quand même, Jean-Luc Mélenchon, où tous les Français sont écrasés par les hausses de prix, vous dites, vous savez quoi ? En fait, ils vont augmenter encore les prix.
En effet.
Mais vous sortez ça d'où ?
Alors, d'abord, commençons par dire ce qui est, parce que vous avez fait un raccourci, je trouve un peu... Enfin, c'est un raccourci. J'ai commencé par dire...
Vous avez dit dans votre discours,
écoutez-moi. Il y a un engagement pris par le gouvernement de notre pays. Le gouvernement de notre pays, à vous et à moi, devant la Commission européenne, de revenir à 3% de déficit.
Tout à fait.
3% de déficit, quand on part de 6,5, égale 80 milliards à retirer du budget. Bien.
Là-dessus,
j'ai commencé par dire, vous n'y arriverez pas. Par conséquent, vous allez faire des coupes dans toutes les dépenses publiques, comme vous le demande la Commission européenne, et j'ai lu l'extrait de la déclaration de la Commission européenne disant il faut supprimer des prestations sociales, il faut taper dans le logement, il faut taper dans l'allocation, je ne l'invente pas, c'est un fait. Les journalistes s'intéressent d'habitude aux faits.
Mais moi je ne vous interroge pas là-dessus.
Non mais très bien,
je vous interroge sur votre accusation du gouvernement de vouloir augmenter la TVA.
Alors, déjà, il faut que les gens comprennent pourquoi. Donc, ne vous en déplaise, il me faut bien expliquer.
Allez-y.
Pour quelle raison. Donc, 80 milliards. Monsieur le maire commence par dire « c'est pas vrai, c'est une invention ». Et divers répondeurs automatiques médiatiques reprennent « c'est une invention ». Non, c'est un fait. Une fois qu'il a eu dit que c'était pas vrai, le lendemain, il dit que c'est vrai. Et il dit « mais nous avons toujours reconnu que nous allons supprimer 40 milliards. Où sont passés les 40 autres milliards annoncés ?» Premièrement. Deuxièmement, je leur dis « vous n'y arrivez pas et vous le savez aussi bien que moi. Donc vous serez obligés d'augmenter la TVA. » Pourquoi ? Alors ça, c'est une analyse. Pourquoi augmenter la TVA ? Oui, parce que la Commission européenne, et ça ce sont des faits qui donc vous intéressent en tant que journaliste, a fait la recommandation à 2 ou 3 reprises, en 2012, en 2013, en 2016, et je crois en 2017, d'augmenter la TVA pour augmenter les ressources de l'État.
Est-ce que le gouvernement a, oui ou non, annoncé, écrit, dit... Nous allons augmenter la TVA à un moment où...
Non, madame. Alors, ça s'appelle, le débat. Alors, vous allez comprendre ça en tant que journaliste. On ne croit pas les gens.
Vous comprenez bien. Vous dites aux gens qui sont hyper angoissés, qui poussent leur caddie, qui voient le prix des pâtes, et vous leur dire, les prix vont augmenter, ils vont le faire.
Oui, madame.
Vous inversez la charge de la
preuve. Madame, exactement. J'accuse et je dis, dites-nous comment vous allez économiser 40 milliards. Figurez-vous, j'ai la réponse. Vous permettez que je la lise?
Allez-y.
Alors, écoutez bien tous les gens. Voici la chose extrêmement précise que vous répondez. Pour 40 milliards, c'est l'équivalent du budget de la justice et du ministère de l'Intérieur. Monsieur le maire dit, je conteste que nous manquions de clarté sur nos solutions pour faire baisser les déficits et la dette publique. De 40 milliards, voilà ce qu'il répond. Elles sont connues et efficaces. Des réformes de structure, on ne saura pas lesquelles, une vigilance sur chaque euro dépensé et de l'investissement dans la croissance. Alors je dis, vous avez raison de vous méfier de gens pareils. Parce qu'en 2017, déjà, ils avaient dit qu'ils n'augmenteraient pas la TVA et ils ont inventé la taxe carbone qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, qui n'avait rien à voir avec l'écologie, qui avait à voir avec le fait que le gouvernement avait écrit à la Commission pour atteindre les 3%.
Donc vous en déduisez qu'ils vont augmenter la TVA.
Mais madame, je raisonne, je me sers de la chose
vous
grise.
Vous raisonnez, vous, oui.
Non, mais attendez, vous avez une objection
un
à présenter.
Un enchaînement de l'ego.
Est-ce que vous avez...
Moi, Est-ce que vous avez un argument
quand un ministre vous dit « je vais économiser 40 milliards » sans vous dire comment, vous le croyez sur parole.
Moi, je regarde les faits. Non, je regarde les faits, je regarde votre programme.
D'opposition.
Je regarde votre programme, je regarde leur programme et je n'ai vu nulle part écrit noir sur blanc qu'ils allaient augmenter la TVA.
C'est bien ce que je dis. Donc, vous êtes une journaliste qui croit sur parole la parole gouvernementale.
Mais la vôtre aussi, puisque je viens de dire que je croyais votre programme.
Mais pas du tout.
Mais oui, je crois votre programme, justement, Jean-Luc Mélenchon. J'ai regardé toutes les propositions. Elles sont extrêmement concrètes, elles sont extrêmement précises. On ne peut pas vous accuser d'avoir un agenda caché.
Bon, eh bien moi je le fais parce que madame, écoutez-moi, moi c'est pas pour
vous faites
vous
de la politique.
Non, mais c'est pas pour
vous
embêter.
C'est normal, c'est votre rôle, j'ai envie de dire. Mon rôle c'est aussi de montrer les contradictions.
Mais si vous me dites, il y a pas de contradiction, que monsieur le maire nous dise comment il compte sortir.
Il y a une accusation sans preuve. Voilà ce qu'il y a.
Ah ben, si un raisonnement et pas une preuve, en effet, il y a rien qui vaille. Depuis Descartes, ça s'appelle le doute méthodique.
Philosophie ou de la politique.
Non, ça s'appelle.
On va
arrêter de dégrader le niveau de la politique. La politique, c'est pas forcément mentir. Je redis, monsieur le maire a avoué qu'il veut retirer 40 milliards du budget de l'État. Comment fait-il? Ou bien il nous dit où il enlève, ou bien il nous dit où il prend. Mais c'est pas être les deux en même temps et dire je ne prends rien et je n'enlève rien. Donc monsieur le maire, dans cette situation, a un problème avec la vérité. La vérité, c'est qu'il a prévu des diminutions de prestations sociales, il a prévu de continuer dans la santé et dans l'éducation, les coupes claires auxquelles il procède. Je vous signale que ça, c'est pas une accusation sans preuve. Il y a 17 000 lits qui ont été supprimés dans les hôpitaux, dont 5 700 en pleine crise. Pendant le gouvernement de M. Macron, on a fermé 30 maternités. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où il n'y a plus de gynécologues dans 13 départements. Ça, ce sont des faits, pas des inventions de Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, j'ai parfaitement entendu. Je montre aussi le raisonnement et la tautologie. Je voudrais qu'on parle de la question de la chaleur, parce que tout le monde le ressent. 8h46, il fait déjà extrêmement chaud partout. Il y a 12 départements qui sont en vigilance rouge. Ce matin, sur RMC, j'avais Marilyn, qui est femme de ménage à Toulouse, qui appelait et qui disait, nous, on est oubliés dans notre quotidien, dans notre travail. Est-ce qu'il faudrait, au-delà de la question de l'écologie, Jean-Luc Mélenchon, que vous êtes très impliqué là-dessus et vous avez bien sûr dans la NUPES Europe Écologie Les Verts. Au-delà de ça, sur la question sociale, est-ce qu'il faut changer les conventions sociales des travailleurs? Est-ce qu'il faut adapter à la canicule pour les années qui viennent la façon de travailler en France?
Alors vous avez raison, vous soulignez un impact peu mentionné. Le plus souvent d'ailleurs on fait comme si la sécheresse était juste qu'il fait chaud. Mais c'est pas juste qu'il fait chaud, c'est qu'il y a moins d'eau. Moi j'ai démarré ma campagne présidentielle sur la question du cycle de l'eau, de la sécheresse, ça n'a pas marché, ça n'intéressait pas. Bon, mais c'est pas juste qu'il manque d'eau, mais le simple fait qu'il manque de l'eau, il faut que vous trouviez 170 litres d'eau par vache tous les jours. Ça veut dire qu'il va y avoir un problème avec l'alimentation des animaux, il va y avoir un problème avec les céréales, il va y avoir un problème avec les êtres humains.
Et avec les travailleurs.
Et là-dessus arrivent toutes les autres conséquences sur la santé et notamment celle des travailleurs. Alors il y a un article du Code du Travail. D'abord, il faut dire ce qui est, c'est que le Centre National qui s'occupe de la prévention des accidents du travail et de la santé au travail a déjà dit qu'à 28 degrés sur un chantier, les gens doivent avoir le droit ou de se retirer ou de se mettre à l'ombre pendant un moment dans la journée et ils ont le droit d'avoir accès à de l'eau. Donc l'employeur doit se donner les moyens portables de donner de l'eau aux gens. À 33 degrés, c'est fini. Hein, on ne peut plus travailler dans les mêmes conditions que d'habitude. Et il y a un article du Code du Travail qui recommande aux employeurs de retirer les gens du travail à partir de plusieurs températures sont évoquées. Mais vous avez raison de dire que rien n'est formalisé. Alors, dans les conventions collectives par branche, il faut que la discussion ait lieu. Comme vous le savez, j'ai prévu que si je suis élu, il y aura des réunions de branche pour notamment mettre tous les minimums salariaux au niveau du SMIC. Le SMIC augmentant, il faudra rediscuter la grille des salaires, mais je pense que ce que vous venez de dire ce matin est très important et qu'il faudra y mettre la question des conditions dans lesquelles les travailleurs travaillent avec le changement climatique. Parce que là, vous évoquez le trop chaud, mais il y a aussi le trop d'eau qui va arriver en septembre, octobre. Comme la mer Méditerranée est une mer qui se réchauffe plus vite que les autres océans et mers du monde...
Et d'ailleurs, il y a 35 départements qui sont en vigilance sécheresse.
Vigilance sécheresse. Certains sont déjà à de l'organisation de l'utilisation de l'eau. Donc la question des mésusages de l'eau devient une question d'actualité. Le gaspillage va devenir aussi une question d'actualité. Alors, pardon, parce que tout à l'heure, nous avons eu une discussion que je n'ai pas pu conclure. Mais au fond, vous avez deux manières de voir le monde. Les uns pensent qu'on va répondre à la situation par le marché. Je ne m'explique pas autrement l'inactivité du gouvernement face à la sécheresse qui s'avance. Parce que tout le monde sait qu'il va vraiment faire très chaud en juillet et en août. Pourquoi ? Ben parce qu'ils pensent que ça va se régler par le marché. Les recommandations qu'a fait Madame Borne, c'est appeler le 15 si jamais vous avez trop chaud, et pour le reste, ben quoi ? Ben achetez-vous de l'eau. C'est ce qui a été dit en Guadeloupe. Mmh. En Guadeloupe, on n'a rien réparé, on en est toujours au même point, et on dit aux gens, achetez-vous
l'eau. C'est ça le choix qu'on doit faire dimanche ?
Mais oui, est-ce que vous choisissez ? Aujourd'hui, tout le monde est dans l'incertitude, aussi bien les libéraux que nous. Nous n'avons pas idée de la violence avec laquelle va déferler l'inflation sur le monde et l'économie mondiale. Nous savons que les banquiers centraux sont en train de serrer les écrous sur le crédit, ce qui veut dire que l'activité pourrait se réduire. Donc, quelles sont les... C'est plus les mesures comptent, bien sûr, mais ce qui compte, c'est les principes. Les uns disent, le marché va régler l'affaire. Nous, nous disons, ce sont les solidarités et l'entraide qui vont régler le problème. Voilà le choix qu'on fait. Les deux thèses ont leur validité. Mais c'est aux gens de trancher, parce que nous n'avons que notre pauvre cerveau pour
décider. Et c'est un vrai clivage. Vous serez où lundi matin ?
Eh bien, je serai chez moi, voulez-vous que je sois. J'attendrai le coup de téléphone du président de la République pour me demander de former le gouvernement.
Mais vous y croyez vraiment ?
Mais pourquoi n'y croirais-je pas ? Parce que c'est une méthode, finalement. Alors, vous n'êtes pas la seule.
Non, mais je comprends oui, l'argument, je comprends le slogan.
Oui, mais enfin, écoutez, nous sommes... Les macronistes sont dans 417 circonscriptions, dont un certain nombre en face de la droite. Personne ne va nous faire croire qu'ils vont gagner toutes les circonscriptions. Nous sommes dans 406 circonscriptions. Autrement dit, entre eux et nous, il y a 11 circonscriptions d'écart. Pourquoi voudriez-vous qu'ils aient gagné d'avance ? Ce n'est pas vrai. La situation est extrêmement équilibrée. C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs le soir même. La situation est que nous pouvons gagner dimanche. Mais la seule riposte aujourd'hui qui reste, c'est de dire « mais non, c'est réglé, vous avez perdu, est-ce que vous allez faire du jardinage ? Il y a déjà au moins 10 personnes qui m'ont mis à la retraite, tout ça n'est pas sérieux. Il faut respecter la démocratie. » Et les sondeurs s'étant tellement trompés, je suggère que pour une fois, on raisonne avec son cerveau plutôt qu'en lisant les recommandations des sondeurs. Ce n'est pas honnête démocratiquement. Donc je le redis pour que tout le monde m'entende. À cette heure, le problème n'est pas réglé. Il faut que vous alliez voter. Votez ce que vous voulez, mais votez. Parce que c'est votre patrie, c'est votre pays, et vous devez trancher. Si vous ne tranchez pas net ce que vous voulez, ça sera la pagaille pendant des mois.
Qu'est-ce que vous dites aux plus âgés qui votent pas pour vous ?
Eh ben, je leur dis
Parce qu'en fait, on vous a beaucoup entendu parler aux jeunes.
Oui.
Mais finalement, vous parlez pas tellement à ceux qui pourraient, à un moment, voter pour vous, mais qui s'en sont détournés.
D'abord, je raisonne pas par tranche d'âge, hein.
Parce que vous avez quand même beaucoup parlé aux jeunes, justement. C'est vous qui avez raisonné par tranche d'âge. Dès le lendemain du premier tour, notamment vos lieutenants disaient aux jeunes,
les journalistes étant là pour me dire, mais vous voyez, les jeunes votent pas pour vous, les vieux votent pas pour vous, c'est absolument faux. Tout le monde vote.
Moi, je vous dis au contraire que les jeunes votent majoritairement pour vous, les plus âgés, moins.
J'ai présenté des arguments, ce sont des personnes qui ont de l'expérience, de la bouteille, ce n'est pas la peine que j'en fasse plus. À partir de 60 ans, de 60 à 69, la statistique montre qu'il y a 2 points d'écart entre M. Macron et nous. Il n'y a que 2 points de différence. Quand on arrive à 70 ans, c'est-à-dire ma propre génération, 15% votent pour la NUPES et le reste vote contre. Déjà, tous ceux qui ont 70 ans ont bien de la chance d'être là, parce que cela signifie que nos corps ne sont pas usés, que nos métiers ne nous ont pas tués au travail, et donc nous avons tout notre cerveau pour réfléchir. Je leur dis, pensez à vos enfants. Si vous croyez que vous sauverez l'avenir uniquement en transférant vos économies, vous vous trompez. Ce qui est en cause, c'est le monde dans lequel nous allons vivre. Et c'est pourquoi je parle aux jeunes, non pas en leur caressant la tête, mais pour leur dire, écoutez, si vous faites rien, vous n'êtes pas chouiné après. Hein ? Donc, allez voter, c'est votre pays. Décidez d'un côté ou de l'autre, mais c'est une dignité d'être citoyen.
Jean-Luc Mélenchon qui sera donc chez lui lundi matin à attendre le coup de fil du président.
Merci
de nous avoir accordé cette ultime interview avant le second tour des législatives. Il est 8h53.